Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel de ce mercredi 24 juillet 2019. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Au Cameroun, plusieurs opposants ont été enlevés de la prison centrale de Yaoundé, selon leurs avocats, qui qualifient cet enlèvement de brutal. Des manifestations et de la colère à Goma, où au moins 3 personnes ont été tuées par des hommes armés. Plusieurs axes routiers sont restés bloqués. En Grande-Bretagne, Boris Johnson est aux commandes. Le nouveau Premier ministre a pris ses fonctions ce jour. Ici aux États-Unis, l'ancien procureur spécial Robert Mueller devant le Congrès. Il a été soumis à un feu nourri de questions sur la délicate enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Et puis, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Cameroun, plusieurs opposants politiques, notamment ceux du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, détenus à la prison centrale de Yaoundé, ont été enlevés. Un enlèvement qui survient après la mutinerie qui a éclaté lundi dans l'enceinte de ce centre pénitentiaire. Et ce sont leurs avocats qui ont tiré la sonnette d'alarme. Yacouba Ouédraogo.
Le collectif d'avocats constitué pour défendre les militants du MRC, interpellé depuis janvier, affirme que des militants du parti ont été enlevés de cette prison. Parmi eux, Mamadou Yacouba Mota, vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Après moult recherches, il nous a été indiqué qu'une partie de nos clients se trouvait au secrétariat d'État à la Défense, ont indiqué leurs avocats, précisant qu'un droit d'entrée leur a été refusé. Lundi, plusieurs détenus de la crise anglophone, rejoints par certains du MRC, ont organisé une manifestation relayée sur Facebook pour dénoncer leurs conditions de détention. Certains endroits de la prison ont été saccagés, un bureau, la bibliothèque et un atelier de couture incendiés. Le gouvernement a annoncé l'interpellation de 177 détenus, dont M. Mota, et impute la responsabilité de la mutinerie, je cite, à un regroupement de personnes placées en détention provisoire dans le cadre de la crise anglophone. Pour le MRC, la mutinerie a été provoquée par une décision des autorités d'ouvrir la cour où manifestaient les séparatistes et opposants politiques à des détenus dangereux. Hier, la prison de Boya, une des 2 régions anglophones, s'est aussi échauffée.
En Centrafrique voisine, Human Rights Watch préconise que la Cour pénale spéciale créée pour juger les violations graves des droits humains devrait intensifier ses enquêtes judiciaires et recruter sans attendre du personnel supplémentaire. Inaugurée en octobre 2018, la CPS est composée de juges nationaux et internationaux et soutenue par l'Union européenne et l'ONU. 8 mois après son inauguration, 4 dossiers ont été instruits. 3 autres font l'objet d'une enquête préliminaire. Au total, 27 plaintes ont été déposées. Au moins 6 personnes sont mortes de malnutrition cette semaine dans le centre du Mali, où l'insécurité empêche l'acheminement de vivres pour les populations, selon des sources gouvernementales et locales. Ces décès sont survenus dans le village de Tigila. Ce bilan a été confirmé ce mercredi par le ministère de la Santé. À Goma, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à ce mercredi par des hommes armés. Plusieurs axes routiers sont restés bloqués presque la moitié de la journée par une population en colère. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après une autre qui a coûté la vie à 2 civils. Charlie Kasirika est notre correspondant à Goma.
Les assaillants sont arrivés aux environs de 19h. Cette route principale était encore grouillante des marchands. Selon les témoignages, ils étaient armés, habillés pour certains en tenue de police. La première personne à succomber sous l'herbale est un jeune entrepreneur, la vingtaine, et qui travaille dans un point de recharge de téléphones mobiles installé aux abords de cette voie principale. Parmi les victimes, un petit garçon d'environ 7 ans, vendeur de sachets plastiques, et une adolescente qui, elle, a été atteinte par balle alors qu'elle était dans la cuisine familiale. Sa mère et ses voisins ont manifesté leur colère, lançant des cris hostiles aux autorités, tout en brandissant la photo de la jeune fille assassinée. Nous demandons au gouvernement d'envoyer des éléments professionnels. Sinon, à chaque fois que nous verrons un homme en uniforme, nous serons toujours frustrés, explique au micro de VOA Afrique Jérémy Lubembe, un jeune habitant du quartier Turunga. Ce matin, les manifestants ont perturbé la circulation dans ces quartiers situés à la limite de la ville de Goma, chef-lieu de la province. Les habitants se sont servis des poteaux électriques en cours d'installation et des pierres pour barricader plusieurs axes routiers menant vers ces quartiers. quartier. Depuis le début de cette année, on compte plus d'une vingtaine de civils tués dans des circonstances similaires sans que l'identité des assaillants ne soit connue. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Toujours en rapport avec la RDC, la Banque mondiale annonce ce mercredi l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars dans le cadre de la lutte mondiale contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de ce pays. Ensemble, nous devons prendre des mesures d'urgence pour mettre fin à l'épidémie mortelle d'Ebola qui détruit des vies et les moyens de subsistance en RDC, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, citée dans le communiqué. L'Organisation mondiale de la santé a élevé l'épidémie actuelle des fièvres hémorragiques en RDC au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Et ajoutons dans le même registre que plusieurs responsables des médias se sont inquiétés ce mercredi de n'avoir pas reçu mardi le bulletin quotidien sur l'évolution de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays au lendemain de la démission du ministre de la Santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau premier ministre britannique Boris Johnson a promis de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre sans condition lors de son premier discours devant Downing Street. Sa nomination a été confirmée par la reine. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous allons remplir la promesse faite par le Parlement à la population et sortir de l'Union européenne le 31 octobre sans condition, a déclaré Boris Johnson. Il a répété que si cela devait se faire au prix d'une sortie sans accord, son pays serait prêt. Avant même sa prise de fonction, le Parlement européen a mis en garde ce matin Boris Johnson contre les conséquences d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Les députés européens estiment qu'une telle éventualité serait économiquement très dommageable. Un Brexit sans accord ne serait pas compensé par une quelque forme d'arrangement ou de mini-accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ont affirmé les députés. L'Union européenne ne renégociera pas l'accord de retrait conclu avec le gouvernement britannique, ont rappelé ses parlementaires. Boris Johnson a été élu hier par les conservateurs britanniques face à son rival Philip Hammond. Ce dernier a démissionné aujourd'hui de son poste de ministre des Finances pour marquer son opposition à la vision de Boris Johnson sur le Brexit.
Ici, aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller a défendu au Congrès l'équité et l'intégrité de son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, M. Mueller détaille une série de pressions troublantes exercées par le président Donald Trump sur son enquête et se dit cette fois incapable de le blanchir des soupçons d'entrave à la justice. Eric Manirakiza.
Un témoignage très attendu, mais jamais voulu par Robert Mueller.
Permettez-moi de dire un mot sur mon apparition aujourd'hui. Il est inhabituel pour un procureur de témoigner au sujet d'une enquête criminelle. Compte tenu de mon rôle en tant que procureur, mon témoignage sera nécessairement limité.
Robert Mueller s'est exprimé d'une voix hésitante, faisant répéter des dizaines de questions. Sans cesse, il a renvoyé à son rapport d'enquête remis en mars. Les parlementaires démocrates et républicains ont déroulé tour à tour leurs argumentaires, livrant des lectures souvent aux antipodes des conclusions de l'enquête russe. Dans ce ping-pong verbal, le procureur a joué un rôle d'arbitre à minima, se contentant de valider ou d'invalider leurs déclarations par des oui, non, correct ou je ne partage pas cette analyse. Avant les débats, le procureur spécial a décrit les efforts russes pour aider Donald Trump à être élu en 2016.
Au cours de ma carrière, j'ai fait face à de nombreux défis pour notre démocratie. Les efforts du gouvernement russe pour s'immiscer dans nos élections sont parmi les plus graves. Comme je l'ai dit le 29 mai, cela mérite l'attention de chaque Américain.
D'un nom laconique, Robert Mueller a contredit le président Donald Trump en assurant ne pas l'avoir totalement blanchi des soupçons d'entrave à la justice. Les conclusions indiquent que le président n'a pas été disculpé des actes qu'il était accusé d'avoir commis, a-t-il déclaré.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Banque centrale du Zimbabwe a autorisé ce mercredi les sociétés pétrolières, les mines de chrome, les ambassades et les organisations internationales à effectuer des transactions locales en devises étrangères à l'heure où le pays lutte contre une crise monétaire sévère et une inflation en forte hausse. Le mois dernier, le Zimbabwe a interdit l'utilisation de devises étrangères dans les transactions intérieures après avoir fait de sa monnaie RTGS l'unique monnaie légale, mettant fin à une décennie de dollarisation. Les revenus de la société publique éthiopienne de téléphonie Ethio Telecom ont atteint 1,26 milliard de dollars, soit une hausse de 7% au cours du dernier exercice 2018-2019. Des réductions tarifaires drastiques allant de 40 à 50% ont été apportées à tous les produits et services dans le but de garantir l'accessibilité, d'améliorer l'utilisation des services et la satisfaction de la clientèle. Ces réductions ont augmenté l'utilisation de données de 130% et les appels vocaux de 19%. Pour terminer, la croissance du PIB égyptien devrait ralentir à 5,5% au cours de l'exercice en cours, comme prévu par le FMI en avril. Ce chiffre est inférieur à l'objectif fixé par le gouvernement. Hormis le secteur pétrolier, l'économie égyptienne a du mal à attirer les investisseurs étrangers depuis le soulèvement de 2011. Toutefois, Nadine Johnson, économiste à NKC African Economics, estime que les perspectives de croissance à moyen terme restent prometteuses en Égypte grâce au secteur du gaz naturel et à la hausse des investissements.
Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouidraogo pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Et on commence par le tennis, bientôt une académie au Bénin.
Oui, en visite au Bénin, le vice-président de la Fédération française de tennis, Daniel Chosse, s'est exprimé sur le projet de construction de l'Académie francophone de tennis dans la commune de Ouida. C'était en présence des responsables béninois de la discipline et de notre correspondant sur place, Élisée Mpatine.
Pensée pour être construite à Avlékété, un village de pêcheurs, cette académie d'excellence, selon le vice-président de la Fédération française de tennis, permettra l'entraînement des jeunes élites francophones, la formation des cadres dont les clubs auront besoin pour se développer et enfin avoir des clubs labels. Daniel Chausse.
C'est un projet béninois, mais c'est un projet qui va bien au-delà du Bénin, puisqu'il est porté d'abord et avant tout par le Bénin, mais il est aussi porté par, finalement, aujourd'hui, près d'une quarantaine de fédérations de tennis francophones.
Pour le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, ce projet était un vieux rêve et le voir se concrétiser est une bonne chose pour le Bénin et toute l'Afrique francophone. Et puis, après avoir exprimé sa joie, Oswald Omeki, ministre des Sports, a rassuré que le gouvernement béninois mettra les moyens nécessaires pour la construction de ce joyau dans la zone de la Rouge des Pêches pour le bonheur de tous les francophones du monde. Cotonou, Élisée Rumpati, VO Africa.
Et en football, l'Égyptien Trezeguet signe en Première Ligue.
L'attaquant international égyptien Mahmoud Trezeguet Hassan quitte son club turc de Kasımpaşa pour rejoindre Aston Villa pour un montant estimé à 9,8 millions d'euros. L'ailier de 24 ans, auteur d'un but en 4 apparitions lors de la récente CAN, devient la 9e acquisition du club basé à Birmingham. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Aston Villa débutera la saison de Première Ligue le 10 août à Tottenham.
Et du côté de la FIFA, Yacouba, l'ancien patron du football libérien, est banni.
Moussa Hassan Bility a été banni pour une période de 10 ans de toute activité liée au football pour des faits de corruption, dont le détournement de fonds destinés à une campagne de sensibilisation au virus Ebola. L'actuel membre du comité exécutif de la CAF a aussi été condamné à une amende de 455 000 euros. La FIFA reproche à Bility, je cite, « le détournement des fonds octroyés dans le cadre de la campagne 11 contre Ebola lancée par l'institution ».
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lindon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Cameroun. Et on le disait tantôt, plusieurs opposants du MRC détenus à la prison centrale de Yaoundé ont été brutalement enlevés pour une destination inconnue après la mutinerie de lundi soir selon leurs avocats. Certains, autant pour moi, se trouveraient au secrétariat d'État à la Défense. Ils protestaient avec des séparatistes anglophones contre leurs conditions de détention. Hier, le gouvernement a annoncé l'interpellation de 177 détenus suite à des pillages et saccages du pénitencier. Dans cette prison, des centaines de détenus attendent depuis des mois d'être déférés devant un juge. Nathalie Barge a joint Maximilienne Gombe, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
La situation des prisonniers politiques au Cameroun nous préoccupe. Tout le monde a vu hier à Mondo Visio qu'un des prisonniers politiques a été baladé pratiquement en nu alors qu'il y avait une mutinerie. Et ça, ce ne sont pas des choses qui nous rassurent au moment où nous réitérons que les prisonniers politiques, et il faudrait purement et simplement les libérer. C'est depuis l'adoption de la loi antiterroriste depuis 2014 que la situation au Cameroun est devenue assez difficile pour tous ceux qui sont activistes, défenseurs des droits de l'homme ou bien membres des partis politiques. Le Cameroun compte aujourd'hui dans ses geôles au moins 1000 prisonniers politiques, de par toutes les crises qui s'en sont suivies.
Alors en ce qui concerne les militants du MRC qui ont donc été interpellés hier, qui manifestaient dans la prison centrale de Yaoundé, est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur leur situation?
C'est un flou orchestré et qu'on ne peut pas, dans une situation où hier on a arrêté tout le monde en leur impliquant, n'est-ce pas, les mêmes faits, et aujourd'hui on trouve certains et on ne trouve pas les autres. Donc, une fois encore, il faudrait que tous ceux qui ont été, n'est-ce pas, arrêtés dans ce cadre hier, qu'on nous dise là où ils sont, qu'est-ce qu'on leur reproche, et en même temps, qu'on nous dise comment ça se fait que pour quelque chose qui a commencé par des revendications normales, ça dégénère, et puis il y a des boucs émissaires qu'on va arrêter. Le mouvement a commencé juste avec les activistes de la crise anglophone qui ont demandé que ça fait 2 ans ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils n'ont jamais vu un juge, et ils demandent de sortir. On ne peut pas faire le distinguo entre les activistes et les grands bandits qui sont d'ailleurs là-dedans. Chacun a essayé de profiter au maximum. C'est assez grave.
Quelle est la durée légale de détention provisoire au Cameroun?
48 heures renouvelables 2 fois.
Quant aux conditions de détention dans certaines prisons au Cameroun, qu'est-ce que vous constatez?
Les prisons du Cameroun ont été construites pendant la colonisation. Donc pour une prison, par exemple, de 800 personnes à Koundingui, on trouve là aujourd'hui 4000. Et dans les 4000, il y a au moins 3000 qui sont des prévenus, c'est-à-dire qui sont présumés innocents. Pareil, la prison de Douala, ça devait prendre 600 personnes. On a aujourd'hui dans les 3500. Toutes les prisons du Cameroun sont des prisons avec des infrastructures vétustes. Vous n'avez pas de séparation entre les grands brigands, entre les mineurs qui ont peut-être seulement volé parce qu'ils avaient faim, les femmes. La corruption, tout la drogue qui rentre, quand vous sortez de là, vous avez un malaise. Parce qu'il y a des gens qui dorment debout. Et si vous voulez dormir sur le mur, vous payez.
La juriste camerounaise Maximilienne Gombe, directrice du REDAC et membre de Frontline Defender, jointe à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Près de 2 mois après sa prestation de serment, le président nigérien Muhammadu Buhari a finalement soumis mardi sa liste de ministres au Sénat. Dans l'un des pays les plus corrompus au monde, les citoyens souhaitent cette fois voir des cadres intègres dans l'exécutif. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Dans le nouveau gouvernement figurent 14 anciens ministres ayant exercé leurs fonctions sous le premier mandat du président Buhari. Parmi eux, Godfrey Onyema des Affaires étrangères, Rotimi Amaechi des Transports et Babatunde Rémi Fashola de l'Énergie. La liste contient également des noms d'anciens gouverneurs et des membres éminents de l'APC parti au pouvoir, notamment Timipré Silva de Bayelsa, Gosveo Agbabio d'Akwa Ibom dans le site pétrolier.
C'est une liste de continuité dans la mesure où la plupart de ministres qui sont nommés étaient déjà au gouvernement auparavant.
Djibril Ibrahim est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja. Il donne son analyse sur le nouveau cabinet.
Et je pense que ça pose un grand problème d'appréciation pour beaucoup de gens au Nigeria qui pensent que beaucoup de ces ministres n'ont pas été aussi bons que ça.
Sur les 43 noms, 7 femmes font leur entrée dans le nouveau cabinet, soit 15%, alors que le président avait promis d'allouer 35% des postes ministériels aux femmes. NED est militante des droits des femmes au Nigeria.
C'est le moment le plus triste dans l'histoire du Nigeria. Je dis que c'est un moment triste parce que notre espoir est presque perdu. Il y a juste 2 semaines de cela que le président réaffirmait son engagement d'avoir 35% de représentation féminine pour un début. Il n'y a rien de tout cela. Donc, il doit retirer la liste ministérielle, même si ça a déjà pris du temps.
Le président Buhari avait promis la participation de la jeunesse à son prochain gouvernement. Mais dans la nouvelle équipe, si elle est confirmée, la jeunesse est absente. Le professeur Djibril Ibrahim.
On ne les voit pas. Beaucoup de gens sont dans les années 60 et 70, comme le président. Et on ne voit pas un seul membre représentant la jeunesse de ce pays. Et c'est quand même un pays de jeunes, le Nigeria, et c'est dommage qu'on ait un gouvernement qui ne reflète pas la réalité de la composition du pays.
Le retard dans la publication de cette liste avait alimenté les tensions politiques et l'incertitude au Nigeria. Les Nigériens ont attendu 6 mois après son élection en avril 2015, avant la composition du gouvernement de son premier mandat. Les Nigériens attendent désormais de connaître dans une semaine les noms des futurs ministres de chaque ministère du gouvernement du président Muhammadu Buhari après leur passage devant le Sénat. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous allons parler de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans le Nord Kivu et en Ituri depuis août 2018. Près de 2600 cas ont été recensés. Et c'est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a rendu le tablier quelques jours après la décision du président Tshisekedi de superviser directement le contrôle de la riposte. De son côté, l'OMS a déclaré l'épidémie en RDC une urgence de portée mondiale. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Direction le Gabon et arrêtons-nous précisément à l'Institut gabonais d'appui au développement qui abrite la 2e édition des vacances agricoles. Il s'agit d'une initiative du gouvernement visant à initier plus de 500 jeunes au métier de la terre. Ils en auront pour 2 mois. Les précisions dans ce reportage d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le jardin potager de l'Institut gabonais d'appui au développement accueille du beau monde. Depuis une semaine, quelques dizaines de jeunes font l'apprentissage de l'agriculture urbaine dans ses différentes étapes. Quelques vacanciers sur le site témoignent.
On enlève les mauvaises herbes pour que la plante pousse bien et on appelle ça le sarclage.
Il y a les petites graines qui passent d'abord par la pépinière parce qu'ils sont encore fragiles et la température et les rayonnements solaires et parce que à cause des fortes pluies. Et il y a ceux qui passent, qui sont sémis directement parce qu'ils ont les grosses graines.
Ils sont ainsi déployés à travers plusieurs projets agricoles. Libreville reçoit plus de la moitié de ce contingent de 500 élèves pour une formation gratuite. Michel Assoumo, formateur à l'IGAD.
Nous avons mis à disposition nos sites et en dehors des sites, nous avons mis à leur disposition des techniciens qui accompagnent les techniciens du ministère de l'Agriculture dans leur programme de vacances agricoles. L'objectif avoué, c'est de susciter des vocations auprès des enfants, dont on suppose qu'en prenant le temps d'expliquer un peu ce que c'est que le métier de l'agriculture, parce que malheureusement, dans notre culture, l'agriculture, c'est un peu le parent pauvre. Celui qui se lance dans l'agriculture est un peu catalogué par les familles comme étant quelqu'un qui a raté sa vie. Donc on essaie effectivement de gommer ces clichés-là pour leur faire comprendre que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui peut très bien employer un médecin dans son exploitation, peut employer un ingénieur dans son exploitation, dont le plus important, c'est de mettre en place une technique agricole qui permette effectivement de développer sa structure et de se faire de l'argent.
La formation des vacanciers est exclusivement pratique, 3 jours sur 7. Chimène Porolo, contrôleur d'agriculture, coordonne les différentes activités des enfants dans les jardins de l'IGAD.
Les enfants sont en train, d'autres sont en train de sacrer et d'autres sont en train de préparer les planches pour leur permettre un peu de revoir ce qu'on attend par les cultures maraîchères et comment ça se passe en général. Voilà, donc le retour à la terre, il faudrait bien que ces enfants-là puissent connaître un peu ce qu'on attend par retour à la terre et quelles sont les spéculations que l'on utilise pour permettre aux gens, n'est-ce pas, dans les cultures maraîchères, de bien pouvoir alimenter la population.
Libreville, Ismaël Obionzé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le procureur spécial Robert Mueller témoigne depuis ce matin devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants au Congrès. Il a assuré que l'enquête russe qu'il a dirigée pendant près de 2 ans a été menée de manière équitable et indépendante. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint ici à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
À mon avis, il n'y avait pas de surprise. Il est très prudent, le procureur, et il a dit tout ce que je peux dire, j'ai déjà fait dans mon rapport. Et après chaque question, il dit la réponse, c'est dans mon rapport. Ce qui est important, c'est que la plupart des Américains n'ont pas lu le rapport de 400 pages. Donc, pour la première fois, c'est en public et des millions de gens regardent la télé et ils ont eu des renseignements directs du procureur à la télévision. Donc, pour la première fois, la grande population apprend ce qui s'est passé avec l'ingérence russe dans nos élections.
Pensez-vous que son témoignage enfonce le président Donald Trump ou affaiblit l'argument des démocrates qui cherchent à entamer le processus de sa destitution?
Oh, je crois que ça renforce les démocrates plutôt, parce que ce qu'il a dit là, dans le rapport, c'est que la campagne de Trump a essayé d'empêcher l'enquête. Donc, il a reçu l'ordre de faire une enquête sur l'ingérence russe et la campagne de président Trump ou le candidat Trump a essayé de bloquer, d'empêcher. Et donc, ça, c'est très clair. Et dans la justice américaine, faire ça, c'est un crime. Mais il ne pouvait pas inculper un président d'un exercice.
Mais on a vu Mueller plutôt hésitant, pas éloquent pour défendre, soutenir le rapport.
Il a tout à fait défendu le rapport. Il y avait des députés républicains qui ont voulu montrer qu'il y avait des contradictions dans le rapport, mais je crois qu'il s'est bien défendu, que le rapport est bien basé sur les faits et sur les témoignages des gens qui étaient au courant. Donc je crois que le rapport est toujours valable.
On a plutôt vu une bataille entre démocrates et républicains qui a tourné à une joute politique.
Oui, c'est vrai. Les démocrates ont voulu aider leur campagne pour la prochaine élection en 2020 parce qu'ils savent que président Trump va être candidat encore une fois. Ils ont voulu faire du mal au président Trump, tandis que les républicains ont voulu faire du mal aux démocrates. Ils ont dit pourquoi le procureur n'a pas fait une enquête sur les relations entre les démocrates et les étrangers. Il y avait des espions anglais, etc. Donc c'était très typique, une bataille politique entre les deux parties.
Et qui en sort gagnant, qui en sort perdant?
Oh, je crois que c'est match nul, quoi. C'est match nul. Mais ce qui compte, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant le grand public est au courant de ce qui est dans le rapport. Et je crois que ça ne peut que faire du tort au président Trump s'il sera candidat. Mais ce ne sera pas la plus importante chose.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition mise en onde par Michel Joseph. Holly Keppard était à la console. John Lydon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.